France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1981, après celle consacrée à Ho Chi Minh, Nasser, André Malraux et Léon Blum, Jean Lacouture publiait au Seuil une biographie de Pierre Mendès France qui, comme son De Gaulle en trois volumes publié peu après, figure nécessairement en bonne place dans la bibliothèque de ceux qui s'intéressent à la vie politique française du XXe siècle. Lors de sa parution, le biographe et son modèle étaient les invités des Nuits Magnétiques. L'occasion pour Laure Adler d'interroger Pierre Mendès France sur quelques-uns des moments importants de son existence, en particulier la période de l'occupation et de la guerre, qui fit de lui un combattant du groupe de bombardement Lorraine, et celle durant laquelle, de juin 1954 à février 1955, il avait exercé le pouvoir. Nuit magnétique, Pierre Mendès France et son biographe Jean Lacouture, au micro de Laure Adler, diffusé la première fois le 4 juin 1981 sur France Culture.
La dernière fois que je vous ai rencontré, Jean Lacouture, c'était pour la réédition, enfin pour l'édition en livre de poche de votre livre sur Léon Blum. Et je vous ai demandé sur quoi vous alliez travailler. Vous m'aviez dit sur Pierre Mendès France, j'espère. Vous vous souvenez?
Oui, en effet. C'était le temps de l'espoir. J'espère que je ne suis pas entré dans le temps du désespoir. Mais c'était une ambition de longue date d'écrire sur Pierre Mendès France pour des raisons qui me sont personnelles et pour des raisons qui sont assez collectives, mais qui se sont précisées depuis dans la mesure où j'avais l'impression que le régime de la France évoluait plus ou moins vers la monarchie et où n'étais pas fâché de rendre hommage à la République. Et prendre Pierre Mendès France comme sujet de mon livre était une assez bonne façon de rendre hommage à la République.
Et Pierre Mendès France, Jean Lacouture, vous en avez parlé de ce projet?
Eh bien, à vrai dire, contrairement à ce qu'il croit, il ne m'en avait pas parlé. Mais je le savais tout de même parce qu'il en avait parlé à d'autres. Il avait fait confidence à d'autres, y compris à l'un de mes fils. De sorte que lorsqu'il est venu m'en parler, je n'ai pas été tout à fait surpris. Cela dit, je suis très flatté de ce qu'il vient de dire en associant tout le travail qu'il a fait à un souci républicain, à une aspiration républicaine. Car ça, j'y vois en effet un symbole. Et je pense que j'ai essayé, souvent au milieu des péripéties d'une vie qui a été bien remplie, d'être fidèle au maximum à ma conception de la démocratie et du devoir d'un représentant de la démocratie, du devoir d'un élu.
Alors on va jouer le jeu que joue Jean Lacouture dans son livre, c'est-à-dire qu'on va commencer par votre enfance et par votre adolescence. Jean Lacouture dit que dans votre enfance et dans votre adolescence, vous n'avez pas souffert de l'antisémitisme, puis que vous avez longtemps hésité, que finalement, un peu malgré vous, vous avez commencé des études de droit, vous êtes rentré à Sciences Po, et j'ai noté dans le livre de Jean Lacouture quelques appréciations sur vous du temps que vous étiez étudiant à Sciences Po. Vous avez eu une note insuffisante, c'est-à-dire moins de 12, en droit des gens. Et les appréciations de vos professeurs, c'était « peut mieux faire »,« intelligent », mais encore jeune. Vous vous souvenez?
Je ne sais pas si j'étais intelligent, mais j'étais certainement encore jeune.
Alors ensuite, vous publiez votre thèse. Et là, donc mention bien, elle est publiée. Et puis, une presse considérable à propos de votre livre.
Oui, considérable et au fond un peu surprenante. Sauf si l'on tient compte du contexte. Ça se passait vers 1926, dans un moment où on discutait beaucoup dans l'opinion publique de la politique financière qui avait été faite par un homme prestigieux et remarquable qui était Raymond Poincaré. Et j'avais précisément consacré ma thèse à la situation financière et à l'action du président Poincaré. De telle manière que mon livre est arrivé, si j'ose dire, à pic, parce qu'il répondait à une curiosité très répandue et à des polémiques qui étaient en cours. Ajoutez à cela qu'on était en période préélectorale, alors également beaucoup de personnes désiraient chercher des références dans le livre objectif qu'un jeune étudiant venait de publier.
Alors de quoi tourner la tête à ce jeune homme, dit Jean Lacouture dans ce livre, mais ça ne vous a pas tourné la tête?
Ah, tourner la tête, j'ai essayé de ne jamais avoir la tête tournée. Mais la vie, même pour un homme qui n'est pas un homme politique, à plus forte raison, quand il est engagé dans une action politique, comporte par la force des choses des péripéties, des hauts et des bas. Et lorsque quelque chose va bien, lorsqu'on est élu, par exemple, député ou maire, enfin pour occuper une fonction de responsabilité, il est évident que cela cause une grande joie. Je dois dire, et ça m'émeut de le dire, que le jour où j'ai été élu député pour la première fois, il y a eu un homme plus heureux que moi. C'était mon père.
Alors vous avez été, là vous sautez des étapes, vous avez été le plus jeune avocat de France, à 19 ans je crois, c'est ça Jean Lacouture?
Oui, et après le plus jeune député de France, et peut-être même de l'histoire de France, puisque Pierre Mendès France a failli ne pas pouvoir être élu député parce qu'il avait été question d'avancer les élections en 1932, et que si on avait avancé les élections d'un mois, comme le projet avait été fait, il n'aurait pas été éligible. Donc à 25 ans et un mois, il n'y a peut-être pas d'autre exemple de député aussi juvénile.
Alors ensuite, il y a eu la fête du printemps populaire de 1936, et on ne vous a pas beaucoup vu dans les rues, et vous avez dit à ce moment-là, je suis beaucoup moins un homme de défilé qu'un homme de cabinet.
Oui, je dois dire qu'à ce moment-là, j'étais très préoccupé par la crise économique grave que traversait le pays, et qui était très fortement ressentie dans la ville que j'administrais, qui était Louviers. Louviers est une ville qui traditionnellement était consacrée au textile, et l'industrie textile est évidemment une de celles qui a le plus souffert. Alors le phénomène du chômage et de la misère était intense, de sorte que j'ai connu à Louviers, comme jeune avocat, mais comme maire, comme responsable, des situations qui étaient vraiment dramatiques. Ça a été une période très douloureuse.
Et puis vous êtes nommé donc sous-secrétaire d'État par Léon Blum.
Oui, dans son second ministère, qui n'a pas été très long, mais dans son second ministère, j'ai eu l'honneur d'être choisi par Léon Blum, et je dois dire que j'étais très flatté de me trouver collaboré directement avec un homme pour lequel j'avais une immense admiration. Et ça a été le commencement d'une très grande fidélité. Pas le commencement, car je le connaissais déjà, mais enfin, ça a été en tout cas une date importante dans une très grande fidélité, car je lui suis resté toujours très attaché.
Alors c'est peut-être là, en tout cas, d'après votre livre Jean Lacouture, que la campagne antisémite commence. À ce moment-là, il y a des journaux pour titrer « Trois juifs pour garder le trésor de l'État français ».
Il n'y avait pas que trois juifs qui s'occupaient des questions financières. Mais il est vrai que si on voulait ne pas tenir compte des autres, mettre tous les autres de côté, et se contenter d'énumérer ceux qui étaient juifs, ça permettait des polémiques qui, à l'époque, étaient très dur et très cruel. Enfin, c'est certainement le moment où était préparée la psychologie qui s'est manifestée plus tard pendant l'occupation et qui a été si meurtrière pour les Juifs.
Alors ensuite, le passage le plus bouleversant de votre livre, Jean Lacouture, c'est toute la période de l'arrestation du député juif Mendès France. C'était ça, l'assignation exacte, les termes exacts.
Oui, l'arrestation et le procès réellement infâme qui a été intenté à Pierre Mendès France. Et vraiment, quand on relit aujourd'hui les circonstances de cette affaire, on est absolument stupéfait, parce que toutes indiquaient d'abord des raisons de caractère psychologique, puis les détails de l'affaire, les péripéties qu'avait traversées Pierre Mendès France, y compris une à laquelle je n'ai pas été mêlé, car je n'étais pas du tout encore mêlé à cette histoire de très loin, mais j'ai fait moi-même le trajet Paris-Bordeaux entre le 11 ou 12 juin 40 et le 15-16 juin 40. Nous avons fait le même trajet, mais lui ayant une blessure peut-être légère, mais tout de même, pour conduire une automobile, ce n'est pas agréable d'avoir une blessure à l'épaule. Et moi, en fort bonne santé, nous avons mis entre 4 et 5 jours, parce qu'il y avait partout d'énormes bouchons devant tous les ponts, la moitié était détruite, on attendait très longtemps. Donc, et penser qu'on l'a condamné à 6 ans de prison ferme pour être à quelques heures en retard d'un délai qui, d'ailleurs, entre-temps, était paru un décret qui allongeait ce délai de façon pratiquement indéfinie à cette époque, n'est-ce pas ? Donc vraiment, toutes les forfaitures, toutes les injustices ont été accomplies en quelques jours par cette juridiction. À l'écrire, on a la main qui vous tremble, et en reparler, on a la voix qui tremble, car c'est vraiment une honte incroyable. Et après tout, l'affaire Dreyfus est une affaire terrible, mais je crois qu'en quelques, sur une affaire évidemment beaucoup plus petite, là, sur quelques détails, il y a encore plus d'accumulation de forfaitures probablement dans l'affaire Mendès France de 40-42 que dans l'affaire Dreyfus. Je veux dire qu'on en reparle encore, et penser que des gens qui ont fait ça sont encore là, c'est tout de même troublant et choquant. Nous sommes tout près de ça encore. C'est assez terrible.
En tout cas, dans cette affaire, ce qui m'a beaucoup ému et ce qui m'émeut encore à distance, c'est d'avoir eu deux avocats remarquables. L'un qui vient de mourir, qui s'appelait Fonlieu Esperaber, qui a appartenu plus tard au MRP, qui était un Alsacien, un homme magnifique, qui est mort il y a quelques semaines. Et puis un second qui est devenu bâtonnier plus tard, enfin qui a fait une belle carrière plus tard, mais qui était tout jeune, qui était stagiaire, qui s'appelait Rochat, et qui est aujourd'hui toujours avocat à Clermont-Ferrand. Et ils ont été pour moi magnifiques. C'est la seule chose que je veux dire, c'est que je n'oublierai pas jamais ce que je leur dois.
Alors vous décidez donc, après votre procès infâme, vous dites « j'arrachais un barreau depuis longtemps scié et je décidais de m'évader », et les circonstances de l'évasion furent pour le moins... drôle.
Ah, une évasion est toujours pittoresque. Une évasion comporte toujours des éléments d'inattendus, des péripéties surprenantes, etc. Et en effet, cette évasion comportait certains aspects curieux ou inattendus, dont un, généralement le plus relaté parce qu'il est amusant, c'est qu'au moment où, ayant franchi toute une série d'étapes de l'évasion qui s'était très bien terminée, et il ne me restait plus qu'un mur à sauter, au moment où j'allais sauter ce mur, qui n'était pas sans danger car il était assez haut, et il y avait des arbres au pied du mur, et je me suis rendu compte à la dernière minute que sous ces arbres, il y avait deux amoureux qui devisaient et qui marchandaient sur l'utilisation de leur soirée. Et je dois dire que moi qui étais pressé, j'ai trouvé le temps terriblement long.
Le temps terriblement long, et la dame terriblement vertueuse.
Et je regretterai toute ma vie de ne pas l'avoir retrouvée.
Elle ne vous a jamais écrit parce
non,
que...
Non, et je dois dire que je le regrette, elle vit sans doute encore. Probablement c'est une femme un peu plus jeune que moi. Elle est peut-être grand-mère aujourd'hui. Mais je ne l'ai jamais retrouvée, je n'ai jamais eu signe de vie d'elle, malgré quelques efforts que j'ai faits. Et je lui demeure très reconnaissant d'avoir cédé.
Alors, autre histoire sentimentale, c'est au moment où vous réussissez donc votre évasion, vous vous retrouvez, on ne raconte pas toutes les péripéties, mais vous vous retrouvez à Lisbonne, et là, une jeune femme blonde, ravissante, vous entreprend, et vous décidez de vous laisser séduire.
J'ai décidé de me laisser séduire parce que c'était la seule manière de gagner du temps, mais je ne me rendais pas compte, je croyais que c'était une jeune femme charmante qui se disait journaliste et qui voulait faire un reportage pittoresque sur mon évasion, enfin raconter une histoire amusante dans un journal. Je ne me rendais pas compte qu'en réalité c'était vraiment une femme de la police qui me tendait un piège. Enfin bon, la coïncidence a voulu que j'ai pu m'échapper très bien.
Et vous êtes même allé dans une boîte de nuit.
Oui, avec elle bien sûr, pour gagner du temps. Et c'est beaucoup plus tard, plusieurs mois plus tard, les Anglais ayant fait une enquête par l'Intelligence Service, que j'ai compris que j'avais failli tomber dans un traquenard.
Alors ensuite, on en arrive à Londres, au moment où vous rencontrez le général de Gaulle. Et là, Jean Lacouture, ce que vous reprenez de la conversation de de Gaulle, au moment où vous, Pierre Mendès-France, vous avez rencontré de Gaulle, c'est un de Gaulle qui dit « Et vous croyez que j'ai eu raison pour le 18 juin ? Et vous croyez que j'ai eu raison pour Saint-Pierre et Miquelon ? Et vous croyez que j'ai eu raison pour la Syrie ?»
Oui, mais la gradation n'est pas tout à fait la même, car il termine par « Et vous croyez que j'ai raison, que j'ai eu raison le 18 juin ?» Ce qui, dans la bouche de de Gaulle, est évidemment une interrogation fondamentale et presque tragique. Alors, Pierre Mendès-France, là, je parle pour lui, mais je parle sous son contrôle, bien entendu, dit naturellement, c'est pas sur la question de savoir s'il fallait résister aux nazis le 18 juin que de Gaulle hésitait, mais de savoir si le fond qu'il avait fait sur les Anglais et les Anglo-Saxons et les Anglais dans cette affaire, il avait entraîné le peuple français du côté des Anglais, n'ayant peut-être pas du premier coup mesuré à quel point les Anglais, tout alliés qu'ils fussent, et nécessaires alliés, étaient des patriotes et des gens qui avaient leur intérêt national à défendre avant tout, et qui nous feraient peut-être quelques mauvais coups si l'intérêt de l'Angleterre, plus ou moins bien compris, l'exigeait. Évidemment, ils pouvaient nous faire quelques coups de jarnac. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est à propos de ces coups de jarnac, notamment au Moyen-Orient, secondairement à Saint-Pierre et Miquelon, de la part des Américains, que de Gaulle se disait « Est-ce que j'ai bien fait d'engager toute la fortune de la France dans les mains de Winston Churchill ?» Mais je crois qu'il concluait, d'ailleurs il s'empressait de conclure, au fond du compte, oui, ça coûte cher. Churchill est un allié incommode et assez rapace, mais fondamental et au bout du compte, loyal.
C'est ça l'interprétation, c'est tout à fait exact.
Alors quand de Gaulle vous demande à Londres ce que vous voulez faire, vous n'hésitez pas, Pierre Mendès-France ?
Oui, bien sûr, à ce moment-là, je dois dire que rien ne comptait que la guerre au sens le plus étroit et le plus physique du mot. Et puis, enfin, il y avait l'affront de Clermont-Ferrand, dont on parlait tout à l'heure. J'avais besoin de me venger. Et ça ne pouvait se prendre que sous une forme militaire. Alors je me suis engagé, j'ai participé au groupe Lorraine, qui est un des très beaux groupes de l'aviation française, qui a été un très beau groupe de l'aviation française libre, et qui a laissé beaucoup de pertes, puisque nous avons eu une fois et demie l'effectif a été abattu à cause du renouvellement. Ça signifie par conséquent qu'on faisait des opérations importantes et difficiles, mais j'en avais besoin après ce qui était arrivé en France.
Et vous étiez un bon pilote ?
Non, j'étais pas pilote propre, je savais piloter car c'était nécessaire en cas de besoin, mais mon rôle principal n'était pas d'être pilote. C'était être bombardier, observateur, chef de bord, car c'était un équipage de quatre. Et je n'étais donc pas le pilote proprement dit. Mais bon, je fais mon métier d'aviateur avec les camarades, de mon mieux.
Alors ce qui frappe beaucoup aussi dans votre livre, Jean Lacouture, ce sont les rapports que vous aviez avec le général de Gaulle, des rapports à la fois ironiques et...
Pas ironiques.
Non, mais très tendres.
Non, ni ironiques ni tendres, non. De Gaulle était capable d'ironie, je ne sais pas s'il était capable de tendresse. C'était un caractère qui n'était pas enclin beaucoup à la tendresse. Mais c'était un personnage qui savait dégager un certain nombre de choses fondamentales, qui avait une lucidité sur les choses à long terme, mais... Par exemple, la guerre, tout à l'heure, on faisait allusion au 18 juin. Après tout, le 18 juin, je ne sais pas très bien quel était son pronostic sur la suite de la guerre, mais il était persuadé que si on s'alliait aux Anglais, on avait quelques chances sur 1000 de la gagner, et si on s'alliait aux Allemands, on avait zéro chance sur 1000 de sortir quelque chose d'authentique et de vrai du côté français. Et, d'une manière générale, ses perspectives à long terme étaient impressionnantes, Et il savait rendre espoir et donner une signification au combat. Nous n'étions pas une troupe engagée dans une armée étrangère, comme il y a eu des cas, dans d'autres circonstances, de volontaires qui se joignaient à une armée amie. Nous étions vraiment la représentation d'une volonté française autonome, avec son propre caractère, sa propre volonté, ses propres ambitions, ce qui donnait lieu à ces conflits auxquels Jean Lacouture faisait allusion tout à l'heure. Et en ce sens, je dois dire que dans cette période, de Gaulle a indiscutablement sauvegardé la réalité, la figure et l'honneur de la France.
Non, mais là, je pensais à ce que raconte Jean Lacouture dans son livre, au moment où, après la libération, vous vous retrouvez avec lui, notamment dans un voyage à New York, et où le général de Gaulle dit, en somme, mes partisans, ce sont les nègres, les portoricains, les malbâtis, les cocus, les immigrés et les juifs. Et à ce moment-là, vous vous souvenez de votre réponse ?
Oui, je lui ai dit, vous êtes le chef du Front populaire, et il en a convenu.
Alors ensuite, on passe donc à votre participation au gouvernement. Là, Jean Lacouture, les choses sont devenues peut-être plus difficiles.
Oui, c'est-à-dire que Pierre Mendès-France a été à ce moment-là le promoteur et le symbole d'une certaine politique, celle de l'austérité, et qui devait s'exprimer notamment sur le plan monétaire par une ponction monétaire et une réduction de la circulation fiduciaire en France qui avait été grossièrement développée pendant la guerre et il fallait, ne serait-ce que pour faire rendre gorge aux profiteurs, selon lui en tout cas, réduire la circulation monétaire, ce qui était évidemment ajouté aux épreuves que subissaient les Français, certaines épreuves de caractère technique qui n'étaient pas minces. Contre cette politique s'est dressé un autre homme, incontestablement patriote lui aussi, qui était M. René Pleven, qui avait été le bras droit du général de Gaulle à son gouvernement à Londres. Et Pleven lui pensait que les Français avaient subi tellement d'épreuves qu'il fallait maintenant être gentil avec eux, il fallait laisser un peu aller les choses, il fallait mettre du mou, n'est-ce pas, mettre de l'huile dans la machine. Et chose étrange, alors que de Gaulle était un homme carré et pas très porté, disait tout à l'heure Pierre Mendès-France, sur la tendresse, et il a réagi avec une certaine tendresse pour les Français, et lui qui en général préférait la France aux Français, pour une fois il a préféré les Français à la France, ce qui est assez curieux. En l'occurrence c'était Mendès-France qui était le gaulliste et de Gaulle qui était le moins gaulliste des deux, et là, puisqu'on ne faisait pas sa politique, Mendès-France a tiré les conclusions, il est parti. Et à quoi le général de Gaulle a d'ailleurs rendu hommage dans ses mémoires, où il y a un très beau paragraphe où il dit comme quoi un homme de qualité peut rendre service à son pays aussi bien en partant qu'en restant dans un gouvernement.
Donc vous partez en avril 45 et Jean Lacouture dit que votre départ s'est fait dans une semi-indifférence.
Ben vous savez, à ce moment-là, il faut tenir compte qu'il y avait des problèmes aigus de toutes sortes, les souffrances de la population française, le problème du ravitaillement, les maisons en ruine, on ne se rend pas compte du degré de destruction. La guerre n'était pas finie, il y avait eu même pendant l'hiver une offensive allemande qui avait été assez relativement efficace. Alors au milieu, il est évident que dans un contexte pareil, au milieu de toutes ces difficultés, on peut comprendre que la querelle ou l'opposition qui m'a amené à cette démission n'apparaissait pas comme l'événement le plus immédiatement urgent et que beaucoup de Français n'y ont pas attaché beaucoup d'importance. J'ajoute que la presse n'a pas pu jouer un rôle très efficace. On manquait de papier, les journaux, le format des journaux, c'était à peu près une feuille comme ça, une feuille grand format imprimée en tout petit caractère. Alors évidemment, la presse ne pouvait pas consacrer beaucoup de place à des débats d'ordre économique.
Alors Jean Lacouture accorde énormément d'importance justement à la presse et à votre nouvelle rentrée en politique, c'est-à-dire en novembre 50 à la Chambre, à propos du débat sur l'Indochine. Vous avez choisi, comme vous l'avez dit vous-même, la méthode de l'électrochoc.
Je dois dire que déjà depuis un certain temps, j'avais un sentiment très précis sur l'Indochine et j'avais eu l'occasion d'en parler à un certain nombre d'hommes et même à des hommes de majorité comme Robert Schuman. Mais la plupart des hommes d'État qui étaient au pouvoir ne concevaient pas une politique, j'emploie un mot volontairement très large, de libéralisation ou d'émancipation des territoires coloniaux. Et pour eux, il fallait d'abord rétablir l'ordre, puis alors l'ancien état de choses, et inévitablement, on ne résistait pas à toutes les tentations du vieux colonialisme. De sorte que défendre certaines thèses sur l'Indochine, c'était dans une certaine mesure faire scandale. Et pour pouvoir avoir plus de liberté d'expression dans ce domaine, j'ai été amené à renoncer à un certain nombre de missions qui m'avaient été confiées sur le plan international, car je ne pouvais pas à la fois défendre certaines opinions sur l'Indochine en France et discuter face à face avec des hommes qui, sur le plan international, contestait la politique française, notamment en Indochine.
Alors, pendant toute la période des négociations sur l'Indochine, vous avez beaucoup utilisé la radio. Vous rendiez compte à la nation de ce qui se passait.
Beaucoup. J'avais pris l'habitude, en 1900, pendant l'hiver 1944-45, ce qui était l'époque où, je vous le disais tout à l'heure, les journaux étaient très peu de choses, enfin on avait peu de moyens d'expression. J'avais donc pris l'habitude pendant cet hiver de parler une fois par semaine à la radio, et j'avais constaté que, au moins dans la mesure où les postes radio le permettaient, car on avait des moyens qui eux-mêmes avaient été très bombardés, qui étaient en mauvais état, j'avais constaté un certain écho, une certaine efficacité. De sorte que 10 ans plus tard, quand en effet je suis revenu au gouvernement, j'ai pris l'habitude, une fois par semaine, de m'adresser à l'opinion publique directement. Non pas du tout, comme certains l'ont dit méchamment à l'époque, pour passer par-dessus la tête du Parlement, car je n'oubliais jamais les priorités particulières qui étaient dues aux élus du peuple, mais pour expliquer à l'opinion publique, expliquer au pays tout entier ce que le gouvernement essayait de faire dans les domaines qui étaient ceux du gouvernement. Il n'y avait pas que l'Indochine. Bien sûr, l'affaire d'Indochine a été, sur le moment, très brûlante, très aiguë, très émouvante, très éprouvante aussi à certains égards. Mais l'idée de m'adresser directement aux auditeurs par la radio, la télé n'existait pratiquement pas à l'époque, est une idée que j'avais eue dès le début, et j'ai constaté, sans même l'avoir exactement prévu, que je recueillais un écho très important.
Alors, toute la négociation pour la fin de la guerre d'Indochine, dans votre livre Jean Lacouture, ça ressemble à un véritable feuilleton policier.
Avec pas beaucoup d'épisodes.
Avec pas beaucoup d'épisodes, mais en tout cas avec un suspense terrible. Oui. Toutes les négociations pour le 17e parallèle, les horloges qu'on arrête exprès à minuit alors qu'il est 4h du matin ou 5h du matin.
Mais ça, le suspense, on peut dire que Pierre Mendès-France, qui n'est, je crois, à la différence d'Edgar Faure, n'est pas du tout un auteur de romans policiers, même sous ce pseudonyme que je pourrais ignorer, avait à inventer là une circonstance dramatique tout à fait extraordinaire, puisqu'il, à partir d'un certain jour, c'était ou la paix, ou sa démission, et un rebondissement de la guerre, car vraisemblablement, à ce moment-là, le contingent a été appelé, il avait même demandé qu'il le soit, les Américains seraient probablement intervenus, etc. Enfin, il y a eu là, tout d'un coup, une tension presque tragique, et je crois qu'elle était voulue en grande partie par Pierre Mendès-France pour mobiliser l'opinion et la mettre de son côté, n'est-ce pas ? L'opinion a été, suivait cette conférence avec intérêt, bien entendu, après tout il s'agissait du sort de jeunes Français qui pouvaient, et d'autres peuples, y compris les Vietnamiens, qui mouraient là-bas, naturellement c'était important, mais en plus, la dramatisation de la négociation a fait que tout le monde s'est passionné. Je me souviens, ces jours-là, c'était pas comme les autres négociations, les gens sentaient qu'ils étaient directement concernés, que c'était comme un grand match international un match où la vie et la mort de dizaines de milliers d'hommes se seraient joués, et la presse a été impliquée totalement, et cela a joué à fond dans le sens de la paix. Et bien évidemment, c'est ce que cherchait Mendès-France.
Maintenant, Lacouture a parlé de mobilisation de l'opinion, il a tout à fait raison, mais je dirais plus, ou je vous préciserai même plus qu'il n'a fait, que la mobilisation, l'appel à l'aide de l'opinion publique ne concernait pas que les Français, il y avait aussi les Vietnamiens. Et au Vietnam, il y avait des tendances diverses, naturellement. Faire appel au peuple vietnamien, en même temps qu'au peuple français, bien sûr, pour lui dire « il y a une chance de paix, il y a un gouvernement français qui veut la paix », c'était encore une manière de faire peser l'opinion publique sur les hommes qui négociaient des deux côtés. Et par conséquent, la mobilisation dont il était question, elle jouait partout, puis elle a joué même dans les pays neutres. Enfin, Lacouture a raison de dire, c'est devenu vraiment un événement à quoi le monde entier s'est trouvé attaché avec une espèce de passion extraordinaire. Et pour moi, ça a été très émouvant.
Alors, dès que la fin de la guerre en Indochine arrive, vous vous occupez immédiatement de la Tunisie, tout de suite, en
oui.
même temps.
J'avais senti à quel point l'ajournement indéfini, le refus des solutions d'émancipation et de libéralisation avait finalement été dramatique et meurtrier. en Indochine. Et par conséquent, je pensais qu'il fallait coûte que coûte intervenir dans les autres pays que nous dominions. Et là où ça me paraissait relativement facile, relativement tout de même, c'était en Tunisie, parce qu'il y avait un souverain qui ne jouait pas un très grand rôle, mais enfin nominalement il était le chef de l'État, et il y avait une élite de gens avec qui nous pouvions parler, qui d'ailleurs la plupart avaient été formés dans les écoles, dans les universités françaises. Enfin, c'était des interlocuteurs possibles et valables, hautement valables. Je ne connaissais pas encore Bourguiba, mais je connaissais un certain nombre d'hommes qui avaient travaillé avec lui, qui étaient en rapport avec lui. Et j'imaginais que si nous prouvions notre bonne foi et notre bonne volonté, la conversation ne serait pas refusée. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait d'urgence intervenir en Tunisie et non pas attendre que les choses aillent plus mal.
Alors là où tout a commencé à trébucher, pour reprendre votre expression, Jean Lacouture, c'est sur l'Algérie. Et comme le dit Jacques Fauvet, ça a été pour votre gouvernement le début du supplice de la baignoire. Je crois que c'était l'expression qui était utilisée par Jacques Fauvet.
Oui, il est évident que l'affaire d'Algérie a éclaté en novembre 1954 à l'initiative de militants très ardents qui reprochaient aux partis les plus nationalistes, les plus patriotes algériens de ne pas être suffisamment combatifs, de ne pas être suffisamment engagés dans un combat direct, dans une révolte proprement dite, et que nous avons donc eu le 1er novembre de premiers incidents graves. Il n'y a pas eu beaucoup de tués, il y a eu deux tués, ce qui est beaucoup trop, mais enfin, à l'échelle des guerres que nous avons connues, ça n'est pas beaucoup. Mais le fait que le même jour, dans des territoires très vastes, très différents de l'Algérie, il y ait eu des initiatives, des attaques, des mouvements, etc., prouvait que, quelque part, un état-major central dirigeait l'ensemble du mouvement et que ce n'était pas des initiatives individuelles auxquelles nous avions affaire. Et je crois qu'il aurait été nécessaire dès ce moment-là de comprendre la nécessité de réviser profondément l'esprit qui animait la domination française en Algérie. On avait en 1947, 7 ans avant, voté ce qu'on appelait le statut de l'Algérie, ce qui impliquait la création d'une assemblée, on peut discuter sur son équilibre et sa composition, et surtout sur les conditions dans lesquelles les élections avaient eu lieu. On avait même imaginé, ça ne s'appelait pas un gouvernement, ça s'appelait un conseil exécutif, mais en fait c'était un gouvernement, dans lequel devaient figurer à la fois des autochtones et des Français d'origine. Ce commencement, cet embryon de personnalité politique algérienne, je n'ose pas parler d'autonomie ou d'indépendance, n'avait même pas été effectivement mis en vigueur. De sorte qu'il m'avait semblé que commencer à appliquer ce statut, c'était la loi française, on ne pouvait pas nous reprocher de l'appliquer, commencer à appliquer ce statut, faire élire une assemblée, quels que soient, je le répète, les dosages et les compositions et les découpages électoraux, faire élire une assemblée sans fraude, avec des contrôles pour qu'elle soit effectivement et valablement authentique, représentative, c'était peut-être une manière d'aborder le problème. Mais il y aurait fallu un sang-froid, une volonté, une compréhension du fond des choses qui malheureusement ne prévalait pas dans la majeure partie de l'opinion publique française. Et alors là, ce drame algérien, comme vous dites, a été terrible de plus en plus. Au début, on a pensé que des mesures temporaires pouvaient être imaginées, de libéralisation unilatérale. Et au début, d'ailleurs, ça n'était pas la vraie guerre. Entre le 1er novembre, date dont je parlais tout à l'heure, et le départ de mon gouvernement, après l'intérim en fin février 1955, donc dans une période d'environ 5 mois, il n'y a pas eu un seul Français algérien qui ait été tué ou même attaqué. Ça prouve donc que la situation n'était pas encore tragique au point où elle l'était devenue en Indochine. Mais enfin, il y avait une tension profonde et Il est évident qu'à partir du moment où les Algériens ont compris qu'ils ne pourraient pas obtenir de nous le moindre effort de libéralisation honnête, loyale, la guerre devenait inévitable.
Puis ensuite, pour reprendre l'expression de Jean Lacouture, il y a eu les falaises de haine contre vous.
Oui, il y a eu évidemment une crispation de colère, de haine, de fureur. Tout à coup, on a découvert que j'avais bradé et pourquoi pas vendu les territoires français, que j'avais trahi. Enfin, il est évident que dans des moments de ce genre, il y a les réactions inévitables. Et je dois dire honnêtement que même à l'époque où l'opinion publique m'était le plus favorable, tandis que j'étais au gouvernement, j'ai souvent dit aux miens qui se réjouissaient, qui étaient sensibles à cette popularité, je leur ai toujours dit, dans ces cas-là, ça se venge et ça se paye.
Et ça vous a fait quel effet de lire le gros livre de Jean Lacouture ?
Eh bien, je dois dire que je suis très impressionné d'avoir donné lieu à un si gros livre. J'y ai trouvé des choses qui m'ont beaucoup ému. J'y ai trouvé, sur certains points, une exactitude de l'analyse psychologique qui m'a stupéfait. Il y a des questions dont, autant que je me souvienne, Lacouture ne m'avait jamais parlé, parce qu'il connaissait bien le dossier, probablement, et où il retrace des événements que j'ai vécus, des réflexions que j'ai faites, des hésitations que j'ai éprouvées, exactement comme s'il avait été présent ou comme si je lui en avais fait confidence. J'ai trouvé une fidélité d'analyse profondément émouvante. Et puis, enfin, c'est un beau livre, c'est magnifiquement écrit, c'est une exactitude de sensibilité qui me touche profondément.
Il vous a fait devenir main d'essiste, Jean Lacouture ?
J'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, si un jour je devais céder à ce péché, Lacouture serait un petit peu responsable.
Jean Lacouture, Pierre Mendès France, aux éditions du Seuil.
C'était Pierre Mendès France et son biographe Jean Lacouture au micro de Laure Adler dans Les Nuits Magnétiques. Première diffusion le 4 juin 1981 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.